Science et religion, évidemment, c'est extrêmement vaste. Y a-t-il une science? Il y a évidemment des sciences. La religion, c'est encore pire. Tout le monde s'accorde pour dire que personne n'arrive à la définir. C'est abominablement complexe. Bref. La seule solution, c'est d'accepter de retrécir le domaine, de faire des choix, de parler de domaines particuliers. Alors c'est vrai que mon idée première, finalement j'ai renoncé parce que j'avais envie de parler d'autre chose, c'était de vous parler de Darwin, parce que c'est vrai que dans mon travail, on a organisé un colloque sur théorie de l'évolution et religion, dans lequel j'avais fait une communication sur vérité scientifique et vérité religieuse. Puis je sais pas, j'avais l'impression que ce que j'avais fait était finalement très abstrait. Je vous indique, une fois n'est pas coutume, je fais un peu de publicité, un livre, donc « Théorie de l'évolution et religion », ce sont les actes de ce colloque qui s'est tenu au lycée Henri IV il y a un an et demi, et honnêtement c'est bien parce que ça fait vraiment le point sur ces questions-là, et sur le plan scientifique, puisque à l'EPHE, vous savez, il y a une section de biologistes, mais aussi une section dite de sciences religieuses, donc ça a été un travail commun avec les scientifiques de la nature, si j'ose dire, et les scientifiques des sciences religieuses à l'EPHE. Donc il y a des mises au point sur la théorie darwinienne d'un point de vue biologique, et puis il y a évidemment la question de l'incidence de la théorie darwinienne sur les représentations du monde, et plus particulièrement sur la question de savoir comment est-ce que les religions ont reçu cette doctrine. Et il y a un point très précis sur le plan juridique, sur le combat que vous connaissez bien, notamment en Amérique, sur le plan scolaire, n'est-ce pas, sur la question de savoir dans quelle mesure on peut mettre d'autres théories en compétition avec la théorie de l'évolution. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir, je vous fais passer le truc et je fais cadeau du bouquin à la paroisse. Voilà. Mais en fait, j'avais envie de parler d'autre chose, pardonnez-moi. Peut-être tout simplement pour la raison suivante, c'est que j'avais un regret. Un regret parce qu'on a passé 2 ans sur le thème itinéraire spirituel. Et puis finalement, ça m'aurait bien plu de vous parler d'un certain René Descartes. Et donc, je vais essayer de corriger ce regret et je vous parlerai un peu de Descartes. Pas seulement de Descartes. Donc, je vais faire des choses assez basiques. J'ai étudié ça à fond quand j'étais étudiant et j'ai un peu oublié, mais il me reste quelques idées générales. Et ma culture scientifique est extrêmement modeste. Alors, je vous ferai une première partie sur la révolution, ce qu'on appelle la révolution de la science moderne, le mécanisme, c'est-à-dire ce qui se passe au XVIIe siècle. Et pourquoi cette révolution est une révolution qui, évidemment, exprime bien autre chose qu'une simple évolution dans la manière de concevoir le mouvement. Bref, première partie d'Aristote à Galilée. C'est quand même assez extraordinaire, parce que vous imaginez que ça fait quasiment 20 siècles. C'est extraordinaire. Imaginez que Aristote domine la scène intellectuelle, philosophique, théologique, même au sens strict et grec du terme, et scientifique du terme, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et Aristote, encore aujourd'hui, reste, me semble-t-il, le socle d'une bonne partie de la pensée catholique, via les théologiens évidemment, qui ont suivi, bien évidemment, mais néanmoins Aristote. Donc, d'Aristote à Galilée, première partie. Deuxième partie, tenter de montrer comment Descartes, effectivement, va incarner ce nouvel esprit scientifique. Et la thèse que j'essaierai de soutenir, qui est assez banale, c'est que c'est à partir de Descartes qu'on peut parler à bon droit de la science au singulier avec un article défini. Et puis on essaiera de voir ensuite, donc, peut-être, quelles conclusions on peut en tirer maladroitement pour nous, même si nous ne vivons évidemment pas du tout dans le même contexte intellectuel. Voilà ce que je vous propose comme chemin et comme restriction des perspectives. J'ajoute que je crois que personne aujourd'hui ne soutiendrait en quelque sorte une vision rétrécie, comme si, évidemment, la science et la religion avaient les mêmes objets. Comme si la religion était la science des imbéciles ou comme si la science était la religion des gens intelligents. Bon, on a pu croire ou penser dans une certaine mesure que les progrès des sciences allaient assécher, allaient finalement conduire petit à petit à une extinction de l'approche religieuse vouée précisément à tomber, je ne sais pas quoi, dans les poubelles de l'histoire et de la superstition. Je crois que plus personne de sérieux ne soutient ce genre de thèse. Bon. Inversement, il peut y avoir... Et puis alors, le double de cette thèse, c'est le concordisme. Mais d'une certaine manière, le concordisme et le scientisme partagent la même erreur, à savoir que la religion et la science sont sur le même plan. Le concordisme, c'est effectivement... il faut à tout prix que la science, finalement, vienne confirmer la religion. Et ceux qui veulent infirmer la science au nom de la religion, c'est parce qu'ils pensent que la science doit confirmer la religion. Donc le concordisme, c'est un fondamentalisme, en fait. C'est la même chose. Bien. Et puis à l'autre extrémité, vous avez une solution purement discontinuiste. Enfin, qui n'est pas raisonnable. Il suffit d'avoir un début de commencement de culture dans l'histoire des sciences pour savoir qu'il y a des interactions permanentes, une sorte de bras de fer, une sorte d'influence réciproque entre science et religion. C'est donc évidemment la thèse interactionniste que je soutiendrai et que j'essaierai d'illustrer, tout simplement, notamment par l'exemple de ce passage donc d'Aristote à Galilée. Alors, Aristote est physicien. Vous savez que c'est le premier nom qu'on donnait aux philosophes. C'est comme ça qu'on appelait les philosophes avant Socrate. On les appelait les physiciens, tout simplement, parce qu'ils tenaient un discours sur la nature. Il n'est pas certain que nous comprenions ce mot, comme eux le comprenaient. Peut-être que d'ailleurs l'étymologie du mot nature en latin dit quelque chose de ce que les Grecs pensaient par physis. Puisque nature vient d'un grec, d'un mot pardon, qui signifie « naître ». Donc la nature, la physis, c'est ce dans quoi les choses prennent naissance, ce dans quoi les choses apparaissent. C'est le lieu de l'apparition de tout ce qui est la nature. Autrement dit, pour les anciens, la nature, ça n'est pas spontanément ce que pour nous la nature est, depuis justement un certain Descartes, c'est-à-dire grosso modo de la matière géométrisable. C'est d'abord le lieu d'un dynamisme, le lieu où se manifestent des forces qui font surgir des formes. Pour comprendre ce que Aristote entend par physique, il faut faire une sorte de voyage. Il faut essayer de déménager, si j'ose dire, par rapport à ces conceptions spontanées. Et en même temps, ce voyage est peut-être un retour, comme à une sorte d'enfance. C'est un peu comme la phénoménologie qui nous apprend à essayer de voir les choses comme pour la première fois, sans a priori, dans une sorte de mélange un peu indistinct entre, je dirais, l'idée et la sensation. Autrement dit, quand Aristote se fait physicien, bien évidemment qu'il a le goût de la généralité, il ne s'en tient pas à des observations, mais Aristote, quand il se fait physicien, se fait d'abord et avant tout observateur. Il le dit d'ailleurs lui-même. Et vous savez que dans la tradition, on présente Aristote toujours comme celui qui est sensible aux choses du monde empirique par opposition à son maître Platon. Repensez à l'école d'Athènes, ce célèbre tableau où on voit Platon qui montre le ciel tandis qu'Aristote regarde vers la terre. Le père d'Aristote était médecin. Le médecin d'un certain Philippe de Macédoine, et Aristote a été le précepteur de son fiston, Alexandre, qui était un peu remuant et pas forcément très, très attentif aux leçons d'Aristote, de sagesse. Et sans doute que ce père médecin a rendu Aristote sensible aux choses concrètes, immédiates, et puis qui aussi, peut-être quand on est médecin, donne le sens de l'urgence, de l'attention, en quelque sorte, à ce qui est tout près, plutôt que les idéalités mathématiques qui étaient le grand amour de Platon. Donc, pour Aristote, la physique, c'est ce qui se passe quand on ouvre les yeux sur le monde, et quand on ouvre les yeux sur le monde, on ne peut pas ne pas voir que nous sommes sur la Terre et sous la voûte céleste. On ne peut pas ne pas sentir qu'il y a deux mondes. Celui des cieux, celui de la terre, qu'il appelle le monde sublunaire, le monde sous la lune. Il est dit dans la Bible, sous le soleil, rien de nouveau, mais Aristote dit sous la lune, toujours du nouveau. C'est le cœur de ça, en tous les cas, un des premiers fondements de sa physique, Sur la terre, il y a de la corruption, de la génération, du changement, tandis que le ciel est proprement divin, c'est-à-dire que ce sont des corps immortels animés de mouvements éternels et réguliers. Et c'est vrai que, comme on l'a dit parfois, le ciel fut le premier instituteur de l'humanité, dans la mesure où, justement, loin des mains pour le transformer, il nous éduque à l'observation, à la rationalisation, à la théorie qui a une racine qui envoie aussi à la question de la vue. Apprendre à voir, apprendre à observer, repérer des régularités. Donc déjà, nous sommes dans un monde qui est double. Il y a deux mondes, le monde de la terre, le monde du ciel. Et dans ce monde, on voit très bien qu'il y a deux sortes de corps. Des corps qui montent et des corps qui descendent. Il y a des graves et des légers. Deuxième différence qualitative. Effectivement, ce stylo bille, si je le lâche, il tombe, tandis que si j'allume une cigarette, la fumée va monter. Quiconque peut le voir, c'est tout simple, n'est-ce pas ? Autrement dit, il y a des corps qui semblent être animés par une sorte de tropisme naturel qui les ramène dans leur lieu d'origine. Et ça, c'est au cœur de la pensée d'Aristote dans sa conception de la nature, le périphuséos, c'est-à-dire que tout est par nature, tout tend vers quelque chose, bref, la nature est tout entière animée. La nature est dynamique, dynamis la force. La nature est téléologique, télos, le but. La nature est animée par quelque chose qui fait que, effectivement, les choses ont tendance à prendre la forme qui est la leur, et les objets ont tendance à rentrer chez eux. Un grave qui est en bas, il est chez lui. Un léger qui est en haut, il est chez lui. Un léger qui monte, il rentre chez lui. Un grave qui tombe, il rentre à la maison. Hein ? Voilà. Essayez d'imaginer cette conception qui est à la fois très conforme à la perception immédiate des choses et qui en même temps ressent quelque chose de si profondément vrai d'une certaine manière, à savoir que la nature est animée de force et semble poursuivre des buts. Et le débat remis à la mode via les États-Unis sur l'intelligent design, n'est-ce pas, ça n'est que tout simplement la remise au goût du jour de la plus vieille philosophie du monde, selon laquelle, effectivement, la nature serait parcourue par quelque force qui l'animerait, qui serait comme un projet. Et c'est la raison pour laquelle, pour Aristote, ce qui par excellence manifeste la nature, c'est l'être vivant. Parce que l'être vivant, par le simple phénomène de la croissance, nous fait observer dans l'admiration la plus complète comment, effectivement, un être réalise à un moment donné sa forme. Et naturellement, avec une espèce d'harmonie absolument extraordinaire, à tel point que Kant lui-même dira que, pour ce qui concerne un être vivant, nous n'avons même pas idée de la forme de causalité qui peut animer une telle chose, n'est-ce pas ? Maintenant, on s'en fait une certaine idée, évidemment, depuis qu'on connaît l'ADN, etc., etc. Il n'en reste pas moins que, toujours aujourd'hui, un être vivant, pour nous, nous met face à cette formule bien connue, tout se passe comme si, effectivement, il semblait être animé par quelques finalités internes, par quelques projets, par opposition à la machine dont la finalité est externe dans la tête de l'ingénieur qui l'a conçue. Donc la nature, pour Aristote, et c'est ça qui est très intéressant, c'est à la fois une force qui va vers la vie, l'âme n'étant que le sommet de la vie, la psyché chez Aristote, simplement le sommet de la vie, le principe de la vie si l'on veut, mais en même temps le sommet de la vie, et l'âme elle-même a plusieurs couches, il y a plusieurs âmes, il y a l'âme ultime qu'il appelle le nous, c'est la seule qui est susceptible de rencontrer les réalités éternelles et qui, à ce titre, est susceptible d'être peut-être immortel. Mais chez Aristote, il y a presque un doute, contrairement à Platon, sur l'immortalité de l'âme. Mais l'âme n'est que la pointe acérée du vivant. Donc Aristote, c'est celui qui pense la nature comme animée par une force, mais en même temps, fondamentalement, tout mouvement est un retour à l'ordre, ou tout mouvement est un dérangement de l'ordre. Autrement dit, tout est pensé chez Aristote à partir d'un centre immobile. La pensée d'Aristote est cosmique, comme la pensée des anciens d'une manière générale. Vous savez que cosmos, ça veut dire pas simplement l'ordre, mais aussi la beauté. Il y a un philosophe qui a écrit un livre là récemment sur toute une histoire de la philosophie, Rémi Braque, il appelle la sagesse du monde. C'est la meilleure formulation pour qualifier la philosophie antique. Car c'est le monde qui porte la sagesse. Et quand Paul lui oppose la folie de la croix, il sait très exactement ce qu'il fait. Puisque son compétiteur, c'est la philosophie grecque. Il est de culture grecque, il sait tout à fait de quoi il parle. La sagesse du monde, c'est le monde qui porte la vérité. Et il faut essayer de se mettre en adéquation, en résonance, en correspondance, en bonne intelligence avec la loi du monde. C'est une pensée profondément conservatrice de ce point de vue-là. Il y a un ordre des choses. Et cet ordre des choses, c'est la nature qui nous l'indique. C'est vrai en physique, mais c'est vrai en politique. La cité doit être entièrement ordonnée autour d'une finalité. Ça s'appelle le bien commun. De la même manière que la finalité de la vie éthique, c'est le bonheur. Donc de même que tout dans la nature poursuit sa fin selon sa forme propre et sa destination propre, de la même manière, la cité doit poursuivre sa destination propre, le bien commun, comme l'individu, le bonheur. Et le bien commun, évidemment, c'est ce qui se passe quand tout le monde est à sa place. Et quand tout le monde est à sa place, tout le monde est heureux et la cité est harmonieuse. Il y a quelque chose de profondément intéressant, de profondément conservateur aussi. Il est vrai que c'est une pensée qui pourrait être rapidement caractérisée d'un peu tautologique. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, les enfants sont des enfants, les adultes sont des adultes, les maîtres sont des maîtres et les esclaves sont des esclaves. Il y a une très belle théorie de l'esclavage chez Aristote qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est assez subtile. Jamais Aristote n'a dit que les maîtres engendraient des maîtres et les esclaves des esclaves. Ce n'est pas génétique chez lui. Simplement, l'expérience montre qu'il y en a qui sont plutôt maîtres qu'esclaves. Et voilà, si vous intervertissez les rôles, tout le monde est malheureux. C'est un peu conservateur, hein, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon. Donc vous voyez à quel point, de ce point de vue-là, Aristote est la matrice fondamentale de la pensée traditionnelle. Que les choses soient conformes à leur nature. Et alors, nous serons heureux, car nous serons dans l'ordre du cosmos. Alors dans le mouvement, évidemment, si je lance mon stylo en l'air, qu'est-ce que je constate ? Ben, qu'il monte d'abord et qu'il descend ensuite. Autrement dit, il y a deux formes de lieu, le haut et le bas. Il y a deux formes de corps, les graves et les légers. Mais il y a deux formes de mouvement, le mouvement naturel et le mouvement violent. Donc si je balance mon stylo dans ce sens-là, ça va faire une parabole, c'est-à-dire une composition du mouvement naturel et du mouvement violent. Alors, c'est très extraordinaire dans l'histoire de la physique. Il y a eu ce qu'on appelait la physique parisienne. Du côté du 15e siècle, il y avait des physiciens parisiens qui essayaient d'expliquer ces mouvements avec la physique d'Aristote. C'est tout à fait excitant sur la manière de composer le naturel et le violent. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Bon. Alors, si on passe à notre ami Galilée, ou si je vous posais la question, effectivement, vous me diriez, quelle blague. Effectivement, il n'y a pas des graves et des légers, etc. Bon. Il n'y a pas le haut et le bas, c'est des conceptions qui nous paraissent bien, bien éloignées et bien, bien dépassées. Donc effectivement, il y a une espèce de simplification radicale avec la révolution moderne, en quelque sorte, à savoir que tous les corps sont pesants, point barre. Alors pour peser un photon, c'est un peu difficile, mais enfin, tous les corps sont pesants, ça voilà, c'est clair. Tous les corps sont graves, etc. Alors, s'il y en a qui montrent, c'est un problème de relativité, etc., parce que la fumée est plus légère que l'air, l'air est lui-même pesant, on sait ça depuis Torricelli, etc., etc. Bref, il n'y a pas, si vous voulez, pour Aristote, un corps grave qui ne bouge pas, c'est un corps qui est chez lui. Alors que pour nous modernes, ce livre posé sur la table est en train de se battre avec la table. Ça s'appelle « La réaction est égale à l'action ». C'est-à-dire que la table exerce une force qui est rigoureusement égale au poids que ce petit livre exerce sur cette table. C'est-à-dire que tout bouge en permanence. L'immobilité est un cas particulier du mouvement, l'ordre est un cas particulier du désordre. Et comme disait Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, n'est-ce pas ? Alors, Alain disait méchamment, c'est parce qu'il prenait froid à sa fenêtre qu'il disait ça, mais bon, il y avait quelque chose de vrai dans cette formule de Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, c'est-à-dire que le cosmos a éclaté, littéralement. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Il y a un jeu de force, en quelque sorte. Et donc, c'est effectivement un renversement de perspective tout à fait considérable. Pourquoi mécanisme ? Vous savez qu'en grec, mécané, ça veut dire ruse, bizarrement. Bon. Et machina, ça veut dire machine. Donc une machine, c'est une ruse qu'emploient les hommes pour faire des trucs plus facilement qu'avec leurs propres mains. Donc la conception mécanique du monde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce renversement de perspective. C'est-à-dire que pour Aristote, la formule est de lui, elle est bien connue, l'art imite la nature. Tout le monde sait ça. Bien. Avec Galilée, c'est l'inverse. C'est la nature qui imite l'art. Ça veut dire qu'il faut penser la nature comme étant comme une machine. C'est le coup de génie absolu de la modernité. Ça ne veut pas dire qu'il croit bêtement que tout n'est qu'une machine. Il y a toujours des imbéciles pour dire ce salaud de Descartes qui pense que les animaux sont des machines. Effectivement, on trouvera chez Descartes cette théorie selon laquelle le corps est une machine. Oui, mais si vous lisez mieux Descartes et si vous lisez le début du traité de l'homme, vous verrez que Descartes dit que l'artifex maximus, Dieu, l'artisan suprême, fabrique l'homme en prenant, si vous voulez, comme modèle la vie elle-même. Il y a un Adam de vie qui est le modèle de l'Adam que nous sommes, avec des poulies, des machins, des trucs. Donc Descartes ne croit pas purement et simplement que nos corps sont des machines, mais il nous dit, ce qui, scientifiquement parlant, est fécond, c'est de les voir comme si c'était des machines, exactement comme le mot d'ordre du discours de la méthode sera « il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Au lieu de rester baba d'admiration et stupide comme des veaux, dirait Descartes, et écrasé par la terreur vis-à-vis de la nature. Donc le mécanisme, pensez bien cela, c'est un renversement philosophique complet qui consiste à voir la nature comme une machine. C'est-à-dire comme si elle sortait des mains de l'homme. Ce qui veut dire qu'on ne conçoit plus Dieu de la même manière, tout simplement. Et donc on pourrait renverser la perspective, c'est la théologie qui conditionne l'épistémologie. Autrement dit, le Dieu d'Aristote est un Dieu parfaitement impersonnel, totalement immobile, et qui se pense lui-même. C'est le moteur immobile, qui est à l'origine de tout, mais à part ça, il ne fait rien d'autre. Et tout revient à lui toujours. Il y a de la génération, il y a de la corruption. Comme un jet d'eau, ça monte et ça se casse la gueule. Tout rentre chez soi. Et donc le modèle, c'est l'immobilité totale. La sérénité parfaite. La pensée qui se pense elle-même et qui ne pense rien. Alors qu'au moment du mécanisme, pourquoi est-ce que les hommes s'imaginent que la nature peut être pensée comme une machine ? C'est parce qu'ils pensent Dieu d'une toute autre manière. Alors là, évidemment, le Dieu biblique est passé par là. Alors a priori, le Dieu biblique n'a rien à voir avec ça. Sauf que, si vous pensez Dieu comme créateur, même si tout le monde sait bien que dans la Genèse, c'est pas très clair, ils sont pas très... Bon, bref, c'est pas clair. C'est clair beaucoup plus tard. La création ex nihilo, vous trouvez ça dans le livre des Maccabées, c'est un livre relativement tardif. Puis après, c'est une théorie théologique qui est mise en forme par Saint-Augustin, etc. Néanmoins, il y avait dans la Bible le germe du Dieu créateur, c'est-à-dire du Dieu transcendant qui est extérieur au monde, et dans lequel le monde trouve son origine. Bref, si Dieu n'est pas dans le monde, comme le cas du Dieu d'Aristote, même si c'est une présence spirituelle, si Dieu n'est pas dans le monde est extérieur à Dieu, donc Dieu a bricolé le monde comme un artisan bricole des petites machines. C'est parce qu'on pense le Dieu comme étant un artisan, et cela n'est possible qu'à partir d'une conception de la transcendance, qu'alors on peut penser la nature comme étant de l'ordre du mécanisme. Donc la révolution scientifique moderne est d'abord et avant tout une révolution théologique. Et de ce point de vue-là, je pense que le monothéisme, comme on dit, a préparé très clairement la révolution scientifique. De ce point de vue-là, la science, c'est pas ce qui annule la religion, mais c'est au contraire des conceptions religieuses qui permettent une certaine idée de la science moderne. Et donc notre ami Galilée, précisément, 1604, théorie de la chute des corps, 1610, la lunette astronomique, et plus tard, la défense du système copernicien. Et si vous ne deviez retenir qu'une chose de Galilée, ce serait cette idée, à savoir qu'il faut absolument toujours penser ensemble, et la dynamique, et l'optique, et la cosmologie. La dynamique, c'est-à-dire la science et la théorie du mouvement, l'optique, je vous en dirai un mot à propos de sa fameuse lunette, et puis sa cosmologie copernicienne. Donc sa dynamique, il découvre la loi du mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire qu'on peut formuler mathématiquement parlant. Je crois que c'est un demi de GT2, je ne me rappelle plus, enfin il faut rentrer dans les détails. Bref, il y avait bien un précédent, mais largement antérieur. Archimède, tout corps plongé dans un liquide reçoit une pression, je ne sais pas quoi, de bas en haut, égale au poids du volume d'eau déplacé au liquide. Enfin, ça, c'est la première, à ma connaissance. Il y a aussi Pythagore qui avait remarqué qu'il y avait un rapport entre la taille des trucs sur lesquels on tape et puis le son que ça émet, etc. Donc il y avait déjà un peu cette idée-là d'une correspondance entre mathématiques et physique, mais sauf que non. C'est ça qui est extraordinaire. Les Grecs sont de géniaux mathématiciens, sont de grands physiciens à leur manière, sauf qu'ils ne voient pas le rapport. C'est extraordinaire. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais s'ils ne voient pas le rapport entre les maths et la physique, c'est parce qu'ils sont dans un autre monde théologique et philosophique. Tandis que précisément, le propre de Galilée, c'est que pour lui, justement, c'est le même monde, évidemment. Et par là, et lingua mathematica. La nature parle la langue des mathématiques. Ça, c'est la science moderne. Loi du mouvement uniformément accélérée. La lunette astronomique, c'est assez extraordinaire en soi. Mais d'ailleurs, ça se comprend aussi. Quelle était la grande objection qu'on faisait à Galilée, qui avait construit, qui avait un peu bricolé à partir de... Je sais pas. Donc, bon, ça grossissait 2, 3, 4, 7 fois plus, c'était déjà pas mal. Mais on lui disait, mais attendez, là, ce que vous voyez, c'est dans la lunette. Ben oui, mais c'est une fonction homothétique qui n'est pas évidente. Moi qui travaille beaucoup avec des aveugles, y compris de naissance, c'est pas une fonction qu'on acquiert quand on... Enfin, ça va pas de soi, cette idée que... Ce qui est loin est petit, ce qui est près est gros, ça c'est très compliqué en fait. Le cerveau apprend à voir, c'est des tas de fonctions très complexes. Et en fait, ça ne va pas de soi de penser l'espace comme uniforme. Parce que précisément, les anciens, comme les enfants, comme nous, nous voyons bien que le ciel et la terre, ce n'est pas la même chose. Et puis d'ailleurs, Dieu, il est aux cieux, on le sait bien. Bon. Donc ce n'est pas la même chose. Donc c'est un viol que de regarder dans le ciel et que de croire que l'espace entre nous et le ciel est un espace isomorphe. C'est ça qui est incompréhensible pour les anciens. Alors ça se passe, Philippe confirmera, ça se passe place Saint-Marc, la première tentative de la lunette. Alors comme toujours, la science ne naît pas, comment dirais-je, dans les nuées, la science naît dans la société, c'est-à-dire dans les rapports de force, de fric, de machin, de trucs. Puis l'armée, évidemment, l'armée est toujours fascinée, très intéressée par la science. Super, on va avoir des lunettes, on va les voir de loin, on va pouvoir les canarder, c'est merveilleux. Donc évidemment, comme toujours, la science est financée par l'armée. Et les Vénitiens, qui sont d'excellents militaires, de grands marins, etc., sont très très intéressés par le cas Galilée, pour des raisons évidentes. Et que va voir Galilée dans sa lunette, vous le savez, les fameuses taches solaires. Alors je crois que une étoile, c'est en gros une bombe à hydrogène, en gros. Donc ça fait des tas de trucs bizarres, extraordinaires. Et donc, il se passe des phénomènes de génération et de corruption. Et ça, c'est un scandale métaphysique absolu. C'est-à-dire que s'il y a des taches sur le soleil, ça veut dire que le soleil n'est pas dans un tout autre monde que le nôtre. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, c'est vrai, la science moderne marginalise l'homme. La science moderne lui dit, tu es un grain de poussière sur un grain de sable qui se balade dans une infinité qui n'a pas de bord. Bon, il y a de quoi être modeste, en principe. Et en même temps, ce qui est extraordinaire avec ce moment de la science moderne, c'est que la Terre devient un lieu d'expérimentation universelle. Donc la Terre devient le laboratoire du monde. Car la Terre n'obéit pas à des lois fondamentalement différentes de celles qu'il y a dans le ciel. Vous voyez, il y a un retour extraordinaire dans cet effondrement de la distinction entre la Terre et le ciel. Donc avec Galilée, la science, ce n'est plus la contemplation de l'ordre et du retour à l'ordre. La science, ça va être un moyen de calculer. Alors là aussi, les militaires arrivent. C'est bien sympa de tirer avec un canon, mais si on arrive à calculer l'endroit où le boulet tombe, c'est encore mieux. C'est Galilée qui déterminera les fameux 45 degrés qui permettent d'avoir la distance optimale. Donc on va faire de la balistique grâce à notre ami Galilée. Parce que c'est toute la différence entre la physique d'Aristote et celle de Galilée, c'est que vous pouvez toujours dire effectivement qu'il y en a qui montent et qui descendent, et puis qu'il y a une combinaison des deux, etc., mais vous ne pouvez pas prévoir. Or, précisément, l'intérêt de la science moderne, c'est de calculer, de trouver une régularité que vous formulez mathématiquement et qui vous permet de prévoir l'avenir. Donc là, la science, de ce point de vue-là, est véritablement une forme de prévision de l'avenir. Alors, et la religion ? On a parlé du rapport entre, finalement, théologie, si l'on veut, et puis science, mais la religion, là-dedans. Alors, le coup du procès Galilée. Donc, il n'y a pas du tout, d'un côté, un gentil savant très intelligent, et puis des hommes d'église très cons, pas du tout. La totalité des astronomes sont des hommes d'église, quasiment. Donc, ils comprennent très bien, au contraire. Donc, en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est tout simplement un problème politique. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une caste sacerdotale qui a le monopole du savoir et donc du pouvoir qui va avec, qui a du mal à admettre qu'une nouvelle caste, car c'est une caste aussi, qui rentre dans la société, qui a du pouvoir, etc., qui va être une caste des savants, des scientifiques, qui aspirent à l'autonomie par rapport à la religion. Puis c'est aussi un problème politique. Si vous dites que Dieu se mêle de la manière dont les choses se cassent la gueule, il est évident que si on vous explique après qu'en fait c'était tout faux, c'est très embêtant, parce que le peuple va dire « Ah bon, s'ils avaient tout faux sur un point, pourquoi pas ils auraient faux sur les autres, n'est-ce pas ?» Donc ça, c'est très mauvais. Donc l'opposition à Galilée, c'est pas du tout parce qu'ils comprennent rien, mais c'est parce qu'ils comprennent très bien, au contraire. Et alors, le document par excellence sur le cas Galilée, c'est la lettre de Bellarmin à Toscarini, deux cardinaux, n'est-ce pas ? C'est pas évident, mais on arrive à la trouver en surfant sur le web, donc même moi j'ai réussi, donc vous pourrez y arriver. Donc vous cherchez la lettre de Bellarmin, le cardinal Bellarmin, à Toscarini, qui est vraiment remarquable. Et que dit l'ami Bellarmin ? Il dit tout simplement ceci. En parlant de l'hypothèse héliocentrique, le soleil au centre, et non pas le géocentrisme, voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà, on peut dire que si on se contente de parler hypothétiquement pour sauver les apparences, ça veut dire rendre compte des phénomènes extérieurs, si c'est juste une hypothèse, pas de problème. Mais vous n'avez pas le droit de dire que ça se passe réellement comme ça. C'est assez extraordinaire. À tel point que même certains épistémologues contemporains trouvent que Bellarmin est furieusement moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est réaliste. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que la science décrive le réel, on pense simplement que la science nous décrit la perception qu'on a du réel, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, Bellarmin est très moderne à sa manière. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça rend bien compte, en tous les cas, des apparences. Mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Bellarmin rappelle que dans Ecclésiaste 1.5, il est dit, le soleil se lève et se couche. Et il revient à son lit. Et il dit que si on dit le contraire, c'est un risque de nuire à la sainte foi en rendant fausses les saintes écritures. Et il enchaîne. S'il y avait une véritable démonstration de l'héliocentrisme, il faudrait procéder avec grande circonspection dans l'explication des Écritures qui semblent être contraires et dire que nous ne les comprenons pas plutôt que de dire qu'est faux ce qui est démontré. Magnifique. Procéder avec grande circonspection dans l'explication des Écritures, c'est tout le continent historico-critique que pressent Bellarmine. La circonspection, c'est faire le tour. On ne peut plus lire naïvement, c'est plus possible. Autrement dit, ne dites pas que la science n'a pas d'effet sur la religion, pas du tout. Moi, je pense que Galilée a plus fait pour l'exégèse historico-critique que toutes les théories plus ou moins nébuleuses en philologie. C'est le choc des sciences de la nature qui nous oblige à ne plus lire les Écritures. Je crois que c'est plus, si c'est même pas Galilée qui l'a dit, ça nous apprend à aller au ciel, mais pas à nous le décrire, merde, quoi, faut pas tout confondre. C'est pas la même chose. Donc ça, il faut le dire et le répéter. Les progrès des sciences et des sciences de la nature ont des effets religieux. Voilà. Ça, je soutiens cette thèse. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper de la science. C'est quand même très intéressant. Bon, notre ami Descartes. Oh, quelle heure est-il dans ça ? Descartes. 1595-1650. Alors, pourquoi Descartes ? Ben parce que c'est celui qui ramasse cette époque en un seul homme, qui ramasse vraiment l'esprit scientifique. Alors, on peut pas parler de Descartes dans tous ses aspects, mais juste le discours de la méthode, qui est quand même le chef-d'œuvre de Descartes. Alors, les philosophes professionnels préfèrent les textes très compliqués, etc., mais le chef-d'œuvre, c'est le discours de la méthode. Alors, comme souvent, c'est un chef-d'œuvre inattendu. C'était juste une petite préface de rien du tout à des petits traités de dioptrique, de machin. C'était une petite préface qui a fait fortune. C'était pas prévu comme étant une grande œuvre de Descartes. Discours de la méthode. Méthode, ça veut dire chemin, finalement. Prendre le bon chemin, et le sous-titre du discours, c'est « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences hein, ». C'est clair. Bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, c'est-à-dire que lui-même emploie encore le pluriel, alors même que précisément il montre qu'on pourra employer le singulier en parlant de la science. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, c'est dommage, mais Descartes a une ironie extraordinaire, d'une violence. Avec son français, on dirait que c'est du latin traduit, le français de Descartes. C'est un peu lourd, mais c'est pas mal. Et alors la façon dont il parle de son éducation, c'est absolument extraordinaire. Donc il a été au collège de La Flèche, il a fait des études de droit à Poitiers, après, bon, il a fait la Nouba à Paris, puis après il est allé faire la guerre, pendant la guerre de 30 ans en Hollande, il a repris les problèmes de mathématiques, puis il est revenu à la philosophie, et puis, bon, il a eu une vie un peu agitée, puis il vivait surtout en Hollande pour qu'on lui foute la paix, tout simplement. Et puis la reine de Suède, qui se piquait de faire de la philo, l'a appelé en Suède. Alors c'était une robuste femme qui se levait de bonne heure. Descartes a toujours fait la grasse matinée hein, quand on imagine Descartes comme étant le gars vachement carré qui se lève de bonne heure. Pas du tout. Il avait même une dérogation au collège de la Flèche tellement il roupillait le matin. Bon. Et le malheureux Descartes, la reine de Suède qui démarrait à 5h du mat, donc il a traversé deux fois la cour du château et il a pris froid, il en est mort le malheureux. Donc je vous ai fait une biographie rapide de notre ami Descartes. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement ça. C'est la façon dont il parle de son éducation. C'est fabuleux. Il dit, voilà, j'étais dans le super collège avec tout ce qu'il fallait de gens bien, etc. Et puis alors, il dit, alors, ironie suprême, on distinguait déjà ceux qui, parmi nous, allaient prendre la place de nos maîtres. C'était magnifique. Ceux qui allaient raconter les mêmes conneries. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Bon. Et puis alors, la manière dont il parle de l'éducation qu'il a reçue. Alors, la poésie dit, ah, c'est formidable, c'est bien, c'est bien. Enfin, il faut être doué, quoi. Puis à la limite, bon, voilà, l'éloquence, ben, généralement, on est éloquent quand on sait de quoi on parle. Donc, vous interrogez un artisan sur son métier, ben, il sera éloquent. Donc, voilà, donc apprendre ça, c'est pas très, très malin, quoi. Voilà. Donc, il est un peu radical. La philosophie, il dit, bon, finalement, rien n'est vraiment sûr dans ce domaine-là, donc, bof, c'est pas terrible. Moi, j'ai rien appris en philosophie. Voilà ce qu'il dit de la philosophie Descartes. La théologie radicale, oui, c'est très bien, écoutez, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai appris que les gens les plus simples sont, sont finalement ouverts au salut autant que les savants, sinon plus. Donc, ce n'est pas spécialement intéressant d'apprendre ce genre de science. Terminé. Voilà. Et ça va très vite avec Descartes. Et puis, il y a vraiment un truc où là, vraiment, j'ai trouvé des choses sérieuses, c'est les mathématiques. Là, le bonheur. Ah, le bonheur. Enfin de la certitude. Enfin des enchaînements logiques. Enfin des choses sérieuses. Il dit, mais enfin, comment se fait-il qu'on n'ait pas bâti des choses un peu plus robustes sur ce genre de fondement, quand même? Et il prend cette métaphore magnifique, qui est la première métaphore de la ville nouvelle qu'on ait jamais prise, et qui, pour nous, nous dépayse, parce que nous, on adore les vieilles villes, et vous verrez à l'expo, l'expo de la mairie du premier arrondissement, n'est-ce pas, comment on aime ces vieux quartiers tout de guingois. Mais Descartes dit, regardez-moi ces villes dégueulasses qui sont faites dans un désordre complet, tandis qu'une ville qui serait faite par un seul architecte avec un seul plan, ça serait de la gueule. Et j'ai fait des recherches et j'ai remarqué qu'en fait, Descartes était originaire de Touraine, n'est-ce pas? Et il vit peu de temps après la première ville nouvelle qui a été faite par Richelieu, et qui s'appelle Richelieu, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Vous pouvez aller à Richelieu, il y a une ville nouvelle, mais qui a de la gueule parce qu'elle est du XVIIe siècle, avec une place qui a la taille de la place des Vosges, qui correspond à la place d'un... C'est la taille d'un régiment, la place des Vosges, hein, pour faire manipuler des régiments. Et Richelieu est une ville nouvelle qui a été faite, c'est vraiment l'esprit de son temps, et Descartes prend la métaphore de la ville pour réformer tout le corps des sciences, comme il dit. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc Descartes dit, bon ben, j'ai vu ce que c'était, ce qu'on m'apprenait, à dégager, et il dit, je préfère m'occuper de la science que je peux trouver en moi-même, lire le grand livre du monde et occuper le reste de mon temps à voyager. C'est magnifique. Lire le grand livre du monde, on retrouve Galilée. Galilée est d'une ironie féroce. Galilée disait, s'ils avaient lu que le cœur était à droite dans les livres d'Aristote, ils ne croiraient pas à la dissection s'ils trouvaient le cœur à gauche. La grande idée, c'est fermez vos livres. C'est pas bien, hein, ça fait un peu taliban. Hein. Fermez vos livres des bibliothèques, ouvrez le grand livre du monde. C'est là que vous trouverez des choses sérieuses. Exactement comme Galilée se plaît à lire la nature, car la nature est un livre écrit en langue mathématique. Voyager. Descartes, comme Pascal, sont des lecteurs de Montaigne. Léon Brunswick a écrit un beau livre, hein, Descartes et Pascal, lecteurs de Montaigne. Sont des lecteurs de Montaigne, c'est-à-dire des gens qui, à cette époque-là, non seulement vivent une révolution scientifique, mais on a commencé à traverser les océans, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient autrement. Et Montaigne est explicite, ces sauvages sont peut-être largement aussi nobles que nous, sinon plus. Et on trouve chez Descartes cette espèce de scepticisme total vis-à-vis des mœurs, mais qui se traduit justement par le conformisme cartésien. Rien n'est plus opposé à Descartes que l'esprit révolutionnaire qui veut imposer de nouvelles mœurs. Non, de toute manière, les mœurs sont des conventions. Donc, grosso modo, il faut faire en sorte de ne pas avoir trop d'ennuis avec la société pour garder l'esprit libre. Mais les choses vont plus loin chez Descartes. Il y a cette volonté de faire progresser la philosophie comme capacité de se conduire effectivement dans la vie comme on conduit un raisonnement mathématique. L'idée de Descartes, c'est si je pouvais trouver dans ma vie une certitude comme j'en trouve en maths, je serais très heureux. C'est ça qui motive Descartes. Et Descartes a une position très intéressante vis-à-vis de la tradition stoïcienne. Vous savez que les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, ou ce qui ne dépend pas que de nous. Ce qui dépend de nous, c'est penser et vouloir. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste. Donc, dans ce qui ne dépend pas de nous, il y a plein de choses qui nous arrivent, c'est-à-dire, en gros, des joies imméritées et des emmerdes. Et donc, vis-à-vis de ça, il faut rester stoïque, comme on dit, c'est-à-dire impassible. Et pour régler notre humeur, pour avoir un minimum d'impassibilité, ben, il faut essayer de bien penser et de bien vouloir. Alors, Descartes, à sa manière, est stoïque, puisqu'il dit, bon, voilà, il vaut mieux régler ses désirs plutôt que de s'imaginer qu'on va changer l'ordre du monde. La formule est de lui, n'est-ce pas? Donc il est stoïcien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit des stoïques? Il dit, ben voilà des gens qui font des palais fort superbes, mais qui sont construits sur le sable. Parce que finalement, ça ne résout pas tous les problèmes. Une fois que j'aurai dit que je me maîtrise spirituellement, si je suis dans la merde et dans la maladie, ben ça va pas bien. Ni plus ni moins. Et Descartes dit, bon, il faut qu'on trouve une science qui nous fasse faire vraiment des progrès. Et puis il y a vraiment une science importante, plus importante que les autres, c'est la médecine. Et ça, c'est très fort, c'est très très fort. L'âme dépend si fort de la disposition des organes. Très fort. Oui, philosopher, bien sûr. Réglez votre corps pour philosopher. Car un corps réglé n'est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est de philosopher. Mais il faut quand même être en bonne santé. Robuste bon sens, inaltérable de notre ami Descartes. C'est tout un choix de société que nous vivons actuellement, dont nous cueillons les fruits seulement depuis 50 ans. C'est la grande révolution, cette espérance de vie extraordinaire qui fait que, bon, on est très angoissé parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser des questions. Que faire de notre vie? C'est quoi être heureux? Enfin, c'est des questions qui se posaient uniquement dans les classes très privilégiées de la société, hein, avant d'être occupé à survivre. Oui, mais tout ça, c'est quand même grâce à la médecine. Et ça, ce choix-là, on voit qu'il est fait par Descartes et au moment de Descartes. C'est très, très clair. Alors, il ne se contente pas de dire ça comme ça. Il dit, bon, il se met au travail et puis il explique toute sa démarche, en quelque sorte. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que tout commence par une sorte de rêve. Il reçoit comme une vision d'une science parfaite et extraordinaire en 1619, alors qu'il est militaire. Et c'est plus tard, en quelque sorte, qu'il va essayer de concrétiser cette vision qu'il a d'une nouvelle science. Et quand il décrit sa philosophie, il dit, bah, puisqu'on est plein de doutes, il faut douter de tout pour se débarrasser du doute. Et c'est comme ça qu'effectivement, il va poser le fameux « je pense, je suis » comme étant la première des vérités, c'est-à-dire, effectivement, si je doute de tout, je crois quoi, du fait que le monde existe, je peux même douter du fait que je doute, mais si je doute du fait que je doute, je ne peux pas, effectivement, en même temps, au-delà de cette limite, ne pas sentir que je pense et donc je suis. Ce n'est pas une vérité intellectuelle, ce n'est pas un syllogisme, son cogito, c'est une sorte d'expérience. Si j'essaye de douter de tout, je ne peux pas douter du fait que je pense. En gros, c'est ça la thèse. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est que dans la philosophie de Descartes, la première des vérités, c'est cogito, ce n'est pas l'existence de Dieu. C'est là où ça change tout. Rappelez-vous le mécanisme. On avait vu que le mécanisme, comme idée matrice de la science moderne, c'était le fait de voir la nature comme une machine. Alors que dans la perspective des anciens, au contraire, on est comme immergé dans la nature, en quelque sorte. Et tout ce que les hommes peuvent faire n'est qu'une imitation pâle ou un dérangement de la nature. Autrement dit, dans la vision mécanique du monde, c'est un peu le monde ramené en quelque sorte à l'homme. Et c'est vrai que pour Descartes, effectivement, la première des questions, c'est pas de savoir si Dieu existe. C'est quel est le type même de mon existence à moi. Par curiosité, j'ai regardé dans l'institution chrétienne de Calvin, c'est quelques dizaines d'années avant, c'est très intéressant. Il dit au fond, il n'y a que deux chapitres, la connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. Et il dit tout de suite, oui, mais par laquelle commencer? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que Calvin dira, bon, finalement, quand vous regardez l'architecture de l'institution, on commence par Dieu quand même. Sauf que c'est la connaissance de notre misère qui est la meilleure introduction à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que chez Calvin, la connaissance du moi, d'une certaine manière, est la meilleure introduction à la connaissance de Dieu. Donc là, on est dans le monde moderne, si vous voulez. Et non plus dans le monde cosmique, si j'ose dire, où Dieu est tellement garanti que de toute manière, tout commence par Dieu. Sur le plan juridique, ça se traduit aussi par le fait qu'il n'y a de droits de l'homme qu'à partir des droits de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est encore des questions parfaitement d'actualité dans notre monde aujourd'hui, je vous le signale. Faut-il penser les droits de l'homme d'abord ou les droits de Dieu d'abord? Vaste question. La modernité a tranché en disant qu'il fallait commencer par les droits de l'homme. Tranché peut-être pas définitivement, mais... Alors, Descartes, donc, conçoit l'arbre du savoir d'une manière métaphorique, avec les racines qui sont la métaphysique, la certitude de soi, l'existence de Dieu, les premières vérités, le tronc c'est la physique, les branches ce sont les sciences particulières, notamment la mécanique, la médecine et la plus haute des branches, la morale, c'est-à-dire la plus complexe. Mais il faut aussi peut-être rappeler une chose qui nous paraît évidente, mais qui est quand même très intéressante, c'est que la métaphysique de Descartes, c'est le dualisme. Ça veut dire que quand je me découvre comme étant un être pensant, je suis purement pensant, puisque j'ai nié tout le reste. Autrement dit, qui suis-je, moi qui pense ? Je suis une chose pensante, et face à la chose pensante, il y a la chose étendue. La res cogitans et la res extensa. Donc pour Descartes, il y a deux substances, la pensée et l'étendue, l'esprit et la matière, l'âme et le corps. Cela est le fondement de ce qu'on appelle la science. La science, c'est quelque chose qu'on établit dans un rapport entre un sujet et un objet. Toute démarche scientifique consiste à constituer des objets, c'est-à-dire mettre des choses hors de soi pour les considérer comme des objets livrés à la connaissance. C'est facile à comprendre, mais ça demande un peu d'attention parce que tout le monde se trompe. Il y a toujours un crétin de service pour dire « Ah, ben vous voyez bien que l'âme et le corps ne sont pas distingués, la preuve, la dopamine, je ne sais pas trop quoi. » Non. La philosophie de Descartes est parfaitement d'actualité et le développement de la connaissance biologique, le développement des sciences les plus ultramodernes sont des expressions du cartésianisme. Autrement dit, que vous progressiez dans la connaissance du cerveau, vous progressez toujours dans la connaissance d'un certain type de mécanisme. Et inversement, rien n'est plus sot que de penser que les machines sont bêtes. Elles seront de plus en plus intelligentes. L'intelligence artificielle étant peut-être l'autre pendant des progrès de la connaissance biologique sur le fonctionnement du cerveau. Autrement dit, le programme cartésien dualiste continue sur le corps lui-même. Et le propre de la médecine occidentale, c'est de considérer le corps comme une machine supérieurement complexe. Mais c'est un mécanisme. Alors après, évidemment, on pourra toujours critiquer cela, mais Descartes lui-même ne dit pas que tout se réduit à cela. Mais si on veut aborder les choses scientifiquement, il faut réduire ce que l'on étudie à un objet. Si je veux étudier le sentiment amoureux que j'éprouve vis-à-vis de telle personne, c'est chez les poètes peut-être que j'apprendrai une connaissance rigoureuse de ce genre de choses. Parce que ce ne sont pas des objets, précisément. Autrement dit, ce sont des choses qui restent de l'ordre de l'intériorité, même si elles participent du monde extérieur. Pour conclure sur Descartes, la philosophie de Descartes, c'est la science. C'est tout. Simplement, Descartes savait que c'était une philosophie. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus que la science n'est qu'une philosophie. Non pas tout à fait parmi d'autres. Ce n'est pas un point de vue parmi d'autres, la science. C'est un point de vue que tout le monde doit en droit partager. Mais c'est quand même le monde ramené à l'homme, c'est-à-dire à la perception que l'on peut en avoir. Qu'est-ce que la vérité scientifique ? Bon. En gros, il y a deux matrices de la vérité scientifique. Il y a la matrice logique et la matrice expérimentale. Si je dis « tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel », la conséquence est absolument rigoureuse. Vous ne pouvez pas tirer une autre conséquence que celle-là. Vous en savez autant que Dieu sur ce point. Maintenant, si vous examinez la majeure, « tous les hommes sont mortels », est-ce que c'est une certitude ? Non. C'est une vérité qu'on obtient par induction. Vous savez ce que c'est que le principe d'induction ? C'est-à-dire que c'est quand on constate l'association de deux séries, Donc, quand A se présente, B se présente. Alors, A s'est présenté une fois, B s'est présenté une fois, alors deux fois, trois fois, n fois, n plus une fois. Donc, à chaque fois que j'aurai A, j'aurai B. À chaque fois qu'un homme est né sur la Terre, il a fini par mourir. Donc, on a fini par en déduire. Sauf que, justement, ce n'est pas une déduction, mais c'est une induction. On a fini par en induire que tous les hommes étaient mortels. Mais ça reste une certitude fondée sur une réalité empirique. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout impossible, hein, d'après les recherches les plus récentes, qu'on puisse prolonger la vie infiniment plus loin qu'on peut l'imaginer, et bien au-delà de 120 ans. Bon, ça sera peut-être tout à fait mortel au sens ennuyeux, mais enfin bon. Donc, tous les hommes sont mortels, c'est une vérité communément admise, qui repose sur une expérience et généralisée par ce qu'on appelle une induction. Pareil, si je dis Socrate est un homme, bon, on se met d'accord vaguement pour dire qu'un homme, c'est un singe avec deux bras et deux jambes, etc., qui un bipède sans plumes, comme dirait Aristote. Et voilà, et donc on va dire, bah oui, ça correspond à peu près, on se met d'accord. Donc on admet ces vérités qui ne sont pas des vérités apodictiques. Et à partir de ces vérités qui sont admises, on en déduit une troisième qui, elle, est absolument certaine. Autrement dit, la vérité de ce point de vue-là est purement formelle. Moi, je sais que j'étais un peu vache, mais en jury pour les entretiens pour les écoles supérieures de commerce, je disais aux candidats, si je vous dis, je sais pas quoi, tous les chevaux sont bleus. Je sais pas, puis après je dis là, ça tombe bien parce qu'il est bleu, mais bon, alors tous les chevaux sont jaunes, ce stylo est un cheval, donc ce stylo est jaune. Est-ce que ce que je viens de dire est vrai? Terreur dans les pauvres yeux des candidats, mais après ça se passait très bien. Donc c'est parfaitement valide sur le plan du raisonnement, mais c'est faux du point de vue de l'expérience. Et donc l'autre matrice de la vérité scientifique, c'est la vérification expérimentale. Mais à ceci près qu'il y a une prévisibilité. C'est-à-dire que quand vous prévoyez que le boulet va tomber effectivement à 400 mètres et qu'il tombe une fois, deux fois, une fois, plus une fois à 400 mètres, ben vous partez en gros de l'idée que c'est vrai. Et puis voilà, et puis basta. Jusqu'à ce que ce soit infirmé par une contre-expérience. Donc c'est ça les deux sources ou matrices de la vérité scientifique. Mais la vérité scientifique, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité ramenée à ces deux matrices-là, et rien d'autre. De ce point de vue-là, la vérité scientifique ne nous dit rien sur l'origine du monde, sur le sens ultime de la vie, sur la signification de l'amour, etc. Et plein d'autres choses, et mille autres choses. Enfin, les seules qui soient vraiment très, très intéressantes, je veux dire, qui nous concernent en tous les cas tous, d'une manière extrêmement concrète. Le sens de la souffrance. Les sciences, ça nous permet d'apprivoiser la nature, et les humanités, ça nous permet d'apprivoiser notre douleur. Descartes savait que la science était une philosophie. Quand on veut tout ramener à la science, on est dans le scientisme, on n'est plus dans la science. Et en même temps, Descartes nous fait comprendre à quel point cette philosophie est utile. Car la science n'est pas purement et simplement théorique, elle a une dimension pratique extraordinaire. Il faut que je conclue, je suis déjà en retard. Mais vous poserez certainement des questions. Je dirais que ce qui est intéressant peut-être à notre époque, c'est qu'on a une sorte de croisée des chemins assez curieuse. C'est-à-dire que d'un côté, paradoxalement, la science moderne nous a totalement affranchis de l'idée de nature, au sens aristotélicien du terme. Et en même temps, c'était l'objet d'un mardi qu'on avait fait sur le thème de l'écologie, il y a une nouvelle actualité de la nature qui revient dans l'histoire à sa façon, qui se rappelle à nous en quelque sorte. Et donc c'est très difficile de faire une balance, mais c'est peut-être l'enjeu peut-être du XXIe siècle, entre d'un côté continuer l'aventure scientifique, qui suppose une désacralisation de la nature, avec toutes les conséquences que ça a sur un plan politique et sur un plan éthique. Et d'un autre côté, considérer que on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, et que s'il y a une sorte de mouvement libérateur par la science, on ne peut pas complètement s'affranchir de ce dans quoi on est. Donc il y a peut-être le Dieu sauveur, comme on dit, mais il y a aussi le Dieu créateur des cieux et de la terre, il ne faut pas l'oublier. La nature témoigne de quelque chose qui mérite le plus grand soin. Et c'est cette tension qui est proprement moderne. Et pour faire une conclusion de type un peu théologique, c'est vrai que je crois qu'il y a une tendance naturelle qu'on trouve très fortement dans la philosophie, dans les religions, dans la spiritualité, c'est « souviens-toi ». Bon. « Souviens-toi ». C'est beau. Schéma Israël. Bon. « Écoute, ne t'éloigne pas, ne fais pas de bêtises, etc. etc. » etc. Donc c'est très beau, c'est très bien, mais tout ça, c'est quand même de l'ordre de la culpabilité. Et moi, je pense que, alors là, pour le coup, la force invincible du libéralisme théologique, non pas un libéralisme théologique qui serait une sorte de rationalisme moralisateur, mais un libéralisme théologique dont le message fondamental est que Dieu est à venir. Et que, justement, la physique d'Aristote, elle est éternelle. Il ne se passe rien, d'une certaine manière. Alors, bon, il se trouve qu'Aristote est quand même un réformateur par rapport au monde dans lequel il est. Mais fondamentalement, l'idéal des anciens, c'est l'âge d'or. C'est que tout ressemble à ce qui se passait au début. Revenir au paradis, voilà. Puis il y a une autre façon de voir les choses, c'est que, justement, on est parti. Et que le Dieu vivant, ce n'est pas le Dieu qui nous apprend à revenir au cosmos, c'est celui qui nous promet quelque chose d'autre, qui est meilleur, qui est pour demain. Et ça, c'est tout à fait, je crois, intéressant. Et de ce point de vue-là, alors là, de ce point de vue-là, il peut y avoir une convergence puissante entre l'esprit de la science et puis un esprit de religion qui est un esprit de foi. Je vous remercie.